l'actualité avec Thierry Campredon. Bonjour.
Bonjour Sébastien. Les prévisions pour ce premier jour de printemps?
Eh bien, il devait faire un peu gris. Moi, je vois du soleil par la fenêtre. Je suis pas sûr que mes prévisions soient justes. La lumière était promise, en tout cas, 18 à 20 degrés pour les maximales du jour. On fait un point complet après votre journal. Une très bonne nouvelle pour les habitants de Gros-Magny dans le territoire de Belfort.
Depuis hier, un magasin a ouvert ses portes dans cette commune du pays sous-vosgien. Son nom, le Verdoyeux, qui propose principalement des produits locaux. C'est le seul et unique magasin de la commune. Et hier soir, il a accueilli ses premiers clients. Nicolas Joly était sur place.
Passé l'entrée, après le rayon déco, on arrive devant les boissons.
Ce que je vois, c'est ce que j'ai vu en premier. C'est bien.
On est accueilli par Noam, chargé du développement commercial. Son rôle,
c'est d'expliquer à monsieur et madame tout le monde qui viendra acheter leurs produits d'où vient le produit qu'ils achètent.
Ok, bah j'essaie de vous poser une colle. D'où vient ce fromage, là, ce comté?
Eh bien, ce comté, il vient de la ferme Lehmann, donc qui est dans la région et que beaucoup de personnes connaissent.
Ok, alors ces pommes qui sont juste là?
Alors ces pommes viennent d'Alsace, de la coopérative que Cyril vous a présentée tout à l'heure.
Traçabilité jusqu'au prénom des producteurs qui travaillent avec le magasin. Cyril Bresson, le gérant.
Les produits laitiers, il y a des parties qui viennent de la ferme de Sandrine Goua et de Nicolas. La viande, elle vient également de chez eux. Les porcs de Gascon, c'est chez Sandrine. Et les porcs normaux et le veau, ça vient de chez Nicolas.
Les clients sont curieux de découvrir enfin ce magasin tant attendu. Agnès vient chercher des pâtes qu'elle aurait pu trouver moins cher au supermarché.
Oui, c'est sûr, mais là, c'est les pâtes d'ici, achetées à 100 mètres de la maison, donc c'est quelque chose pour lui. Et c'est une fierté, quelque part.
À l'arrière de la boutique, on trouve des salles de découpe et des chambres froides. L'équipe espère se développer suffisamment pour produire et transformer de la viande et distribuer un jour dans toute la région.
Et le Verdoyeux à Gros-Magny est ouvert du mercredi au samedi et le dimanche de 9h à midi. Les salariés des Galeries Lafayette retiennent leur souffle. Le tribunal de commerce de Bordeaux se prononce en effet aujourd'hui sur le plan de sauvegarde concernant 26 magasins en France, dont ceux de Belfort et de Besançon. Un hommage national est rendu en ce moment aux Invalides, à l'amiral Philippe de Gaulle, décédé mercredi dernier à l'âge de 102 ans. Un hommage présidé par Emmanuel Macron, qui a salué la vie du fils du général de Gaulle, une vie marquée par l'engagement, notamment pendant la Résistance.
Autre hommage hier soir à Montbéliard.
Les élus de la ville se sont réunis au Square du Souvenir pour rendre hommage aux victimes de la guerre d'Algérie. 500 000 morts, dont 30 000 soldats français et 4 000 civils. Parmi les victimes, 7 militaires originaires de Montbéliard. Alors même si les années passent, il est toujours très important d'honorer leur mémoire. C'est ce que nous dit Bernard Josel, ancien combattant en Algérie entre 60 et 62.
Comme beaucoup de combattants de toute époque, on est plus ou moins oublié parce que l'actualité de ce qui se passe, mais ça ramène toujours quand même. On est à une époque de conflit instable, donc on a une petite idée chacun. Je pense que les amis partagent le même point de vue. Hein.
Vous êtes marqué, quand vous dites marqué, par les conflits qui se passent dans le monde, la guerre en Russie, en Ukraine?
Oui, bien sûr. On suit l'actualité comme tout le monde. Hein. C'est quand même pesant. C'est pesant. Faut pas s'habituer à une chose pareille. Hein. On ne sait pas. C'est un équilibre fragile. On se met à la place des gens. Hein. C'est pas possible. Hein. L'homme, c'est l'homme. Hein. Il veut toujours conquérir, s'agrandir. Tous les gens méritent de vivre libre. Les gens pourraient vivre mieux sans toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, quelle qu'il soit. Hein.
Des propos recueillis par Alexandre Lepère. L'opération Place Nette contre le trafic de drogue qui s'est déroulée hier à Marseille a permis 98 interpellations selon les chiffres actualisés ce matin par Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. 71 personnes ont été placées en garde à vue. Par ailleurs, 9 kilos de cannabis et plus de 385 000 euros ont été saisis. Dans un instant, dans Ma France, avec Wendy Bouchard, nous irons à Marseille pour voir ce que pensent les riverains et les représentants de la police de cette opération.
Comment parler de l'actualité aux collégiens?
C'est l'une des questions posées à l'occasion de la semaine de la presse des médias à l'école. Hier, Christophe Beck, l'un de nos journalistes, est intervenu dans plusieurs classes de 4e et de 3e du Collège Vauban à Belfort pour présenter et expliquer notre travail et la façon dont on choisit et dont on traite la formation. L'occasion également d'interroger les élèves sur leur manière de s'informer. Écoutez ces quelques témoignages.
Si c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais tout lire. Mais si c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, par exemple, je vais juste passer et puis pas faire attention.
Moi, c'est le sport et tout ce qui est automobile, soit sur la télé, soit sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, il y a des faits divers.
En général, je fais quand même attention. Si je trouve quelque chose, je vais aller vérifier ailleurs pour vérifier que c'est vrai.
Il y a aussi un peu la politique qui est sur les pages d'accueil et tout. Donc.
Quand je vois des informations qui ont l'air un peu trop surréalistes et tout, je vais essayer de croiser des informations pour voir d'autres points de vue.
Après, je suis sur les réseaux, donc il y a des infos qui passent, mais je vais pas vérifier après les informations.
J'arrive quand même à reconnaître parfois si c'est des nouvelles qui sont fausses. Bah, parce que quand même, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Je me demande quand même si ça peut être réaliste.
Alors, pour les aider à décrypter l'info et faire la part des choses entre les vraies et les fausses informations, les élèves peuvent compter sur leur professeur d'histoire. Cela fait maintenant une dizaine d'années qu'il fait de l'éducation aux médias auprès des jeunes. Et ce matin, il nous a expliqué en quoi consistait son travail.
Mon rôle, c'est d'essayer d'amener les élèves d'abord à la curiosité, parce que je pense qu'il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Le média, c'est quelque chose qui est censé les amener à une curiosité, une envie de connaître, une envie de comprendre, etc. Donc je pense que le point de départ, c'est vraiment la curiosité. Ensuite, une fois que on a essayé de faire ça et que ça fonctionne avec certains élèves, parce que ça fonctionne pas avec tout le monde, ensuite, essayer de travailler sur l'esprit critique, la prise de recul, mettre en perspective certaines choses. L'histoire et la géographie sont des outils super intéressants pour ça, très complémentaires. Et puis, peut-être qu'on y viendra un petit peu après, sur l'esprit critique, j'anime aussi un atelier de philosophie, et c'est un endroit incroyable, justement pour prendre du recul sur tous les sujets d'actualité, etc.
Et cet entretien avec Laurent Desplanques, professeur d'histoire au collège Vauban-Belfort, c'est à retrouver en intégralité sur francebleu.fr et sur votre application ici.
Et aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps.
Et c'est aussi la journée internationale du bonheur, une journée créée en 2012 par les Nations Unies. Et aujourd'hui, dans son rapport, l'ONU a établi un classement des pays les plus heureux au monde, Justine Clos.
C'est encore une fois en Finlande qu'on trouve les habitants les plus heureux du monde. Le pays nordique décroche la première place pour la 7e année de suite. Il est suivi de près par le Danemark, l'Islande et la Suède. La France, elle ne fait pas vraiment partie des bons élèves. Elle recule de la 21e à la 27e position, un peu après l'Allemagne et les États-Unis. Et puis à l'autre bout du classement, il y a l'Afghanistan qui occupe la dernière place. Le pays connaît une crise humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans en 2020. Mais alors, sur quoi se base ce classement de l'ONU ? Ce rapport sur le bonheur prend en compte plusieurs facteurs. Il y a par exemple les revenus des habitants, l'accès gratuit aux soins et à l'éducation. Il y a aussi l'absence de corruption et évidemment le sentiment de bonheur de la population. Ce classement, c'est un moyen de contrebalancer le PIB, de ne plus seulement mesurer la santé économique d'un pays, mais aussi son bonheur national brut.
Et le bonheur, c'est bien sûr d'écouter également France Bleu, Belfort-Montbéliard.